On a tous nos expériences de la période de confinement. Voilà que la deuxième vague qui se profile à l'horizon, en fait, qui est déjà commencée, d'après les experts, il y a évidemment la santé physique qui est en cause, mais aussi le moral, la santé mentale. Puis il y avait cet article dans Le Devoir où on nous disait, en gros, qu'il y a une augmentation de consommation d'antidépresseurs au Québec.
Ouais, mais avant de commencer, j'ai un scoop pour vous autres.
On écoute.
Absolument. Le DSM, le fameux manuel diagnostique là, de la santé mentale que les psychiatres utilisent, là, s'apprête à sortir une nouvelle maladie. Ça s'appelle le syndrome Costco. Et ça s'applique aux gens qui font des obsessions avec le papier de toilette. Bon, alors, c'est la fin de la rigolade parce que c'est pas drôle. Et on est tellement vulnérable. Qu'on ait un passé de problèmes de santé mentale ou pas, face à autant d'anxiété, n'importe quel être humain normalement constitué va avoir des petits moments de détresse. Hein? Puis la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que la détresse normale devient une pathologie, devient... dangereux devient, parce qu'on le sait qu'ultimement, surtout au niveau de la dépression, c'est toujours la conséquence ultime de la dépression, malheureusement, c'est le suicide. Et on n'a pas encore entendu parler s'il y avait eu des augmentations. J'ai essayé de trouver hier, j'ai rien trouvé. Je me demande si le taux de suicide a augmenté depuis, en fait, pendant surtout le confinement, mais aucune statistique là-dessus. Mais chose certaine, les ordonnances d'antidépresseurs ont augmenté. Et aussi, paraîtrait-il, même si Le Devoir dit que c'est pas le cas, les prescriptions d'anxiolytiques, les benzos, les activants et autres qui sont beaucoup plus dangereux pour l'être humain, pour la santé, pour l'addiction que les antidépresseurs. D'ailleurs, les gens pensent, oh, les activants, on entend parler de ça, il y a rien là. Quelqu'un qui est vraiment accro à ça, là, c'est presque aussi difficile de s'en débarrasser que de régler un problème d'héroïne. C'est très sérieux. Moi, je trouve que comme tout le reste là, dans la société, la COVID a mis un éclairage cru et nu sur les failles dans nos systèmes de santé, d'approvisionnement, s'il le faut, certaines choses, etc. Mais certainement, le problème d'accès à des soins de santé mentale pendant la COVID, c'est assez pathétique parce que il y en a presque pas en temps normal et il y en a encore moins présentement.
Il ne faut pas jouer les bonhommes 7 heures. Il y a quand même eu la COVID. Moi, je pense que ça s'est mieux passé que prévu. Là, parce que dans les grandes crises économiques, il y a des vagues de suicides, comme tu me dis. Puis là, effectivement, elle n'a pas été confirmée, notamment à cause de l'aide canadienne qui a été... finalement, il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat des ménages au global d'à peu près 8 %. Mais bon, il y a eu des faillites, mais il n'y en a pas eu autant qu'on aurait pu penser dans un premier temps. Et moi, j'ai vu beaucoup de convivialité, de ressort de la société capable de se prendre en main, acceptant avec une certaine grâce toutes les mesures. Tu sais, t'as pas eu des batailles des gens qui voulaient pas faire la file dans les épiceries, etc. Je trouve que ça témoigne du fait que la société est assez en forme au moment d'entrer dans la crise. Mais néanmoins, sans jouer les bonhommes 7 heures, il y a pas mal de statistiques qui indiquent que ça s'est vraiment passé, le problème de santé mentale. Peut-être que ça va pouvoir recommencer. La statistique la plus inquiétante, là, c'est aux États-Unis, au plus fort de la COVID, à la mi-avril, 28 % des adultes américains ont présenté des symptômes de dépression contre 8 % d'habitude. Et ça, c'est dans les études qu'ils ont faites pour la dépression liée à la COVID, c'est beaucoup lié à la dépression profonde, à des situations ingérables, comme par exemple les gens qui arrivent pas économiquement. Les gens, on parle des femmes et des immigrants qui ont été touchés plus que... Et des gens qui travaillent dans les services, donc des petits salariés qui travaillent dans les services, qui ont perdu leur emploi. Et là-bas, l'aide a été beaucoup moins importante qu'ici. Mais même ici, t'as beaucoup de sud-est asiatiques, par exemple. C'est la communauté qui a eu le plus de problèmes de dépression et de loin plus que les autres au Canada parce que ce sont des petits propriétaires, tu sais, dans les food courts, là, comment on appelle ça, les foires alimentaires, ouais. Par exemple, dans les centres d'achat. Ils ont des petits commerces et là, ils ont vraiment...
Des dépanneurs.
Et là, ça a frappé fort, très fort. Il y a eu beaucoup d'articles aussi en France sur ce qui s'est produit et on note que le fait d'être une femme, un parent d'enfant de 16 ans ou moins, puis déclarer une situation financière difficile, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est des conditions liées à la situation épidémique. Donc, télétravailler en période de confinement et avoir un proche malade. Donc ça, c'est une affaire qu'il ne faut pas oublier, là. Les gens qui ont été avec un malade à la maison, qui ont eu peur de l'attraper, etc., ça peut donner un sérieux coup.
Ou un proche dans un CHSLD qui ne peuvent pas voir et qui savent qu'il est en... Je veux dire, tous les éléments, là, quand on dit que la table est mise, mais les gens que ça frappe le plus et le plus durement, ce sont les gens qui ont déjà une historique de santé mentale ou peut-être on a remarqué apparemment aussi une augmentation au niveau de la consommation, alcool, drogue, en fait, de merci beaucoup, celle-là même. c'est ces gens-là, les gens qui ont eu des diagnostics dans le passé de dépression, de bipolarité, des gens qui ont des problèmes d'anxiété, mais des gens en partant qui sont anxieux, tu arrives dans le COVID, là, tu risques d'avoir comme un trop-plein d'anxiété. Mmh. Mais la société est résiliente, les gens sont résilients, sauf que quand tu as besoin d'un soin de santé mentale, tu ne peux pas attendre 6 mois, tu peux pas attendre 3 mois. Quand tu as des idées noires, c'est là que ça se passe. Et c'est là que ça peut malheureusement se passer. Puis là, le système, il répond absent.
Oui. Écoute, j'ai une petite perle, Lise, Paul, ce matin. C'est l'École de santé publique de Boston, l'Université de santé publique de Boston, qui établit les critères de ceux qui sont en santé puis ceux qui ne le sont pas. Et il explique que ceux qui ont le moins de problèmes de santé mentale, je vais lire le texte parce que c'est avoir une bonne connaissance des modes de transmission de la maladie, respecter les mesures de confinement, se sentir capable d'adopter les mesures de protection et avoir confiance dans l'action des pouvoirs publics diminue le risque d'anxiété. Donc, on peut penser, à l'inverse, que tous les gens qui les remettent en cause puis qui se disent « maudit qu'on est mal gouverné » puis ils nous disent n'importe quoi, puis le masque, ça n'a pas d'allure, puis c'est pas vrai qu'il y a des malades, on peut penser qu'ils sont très anxieux. Très, très, très anxieux.
Ça a du sens. Ça a du sens.
Ouais. Sinon, il en rentre d'autres anxieux.
On va s'arrêter pour la pause, puis au retour, est-ce que c'est vrai que ça coûte cher vivre au Québec ou pas? La 13, monsieur.